Investir à plusieurs.
Ah non, mais en fait, cette histoire est partie complètement hors de contrôle. En fait, quand j'ai atteint les 10 000 abonnés, donc j'ai mis 4 ans à atteindre 10 000 abonnés, et je me suis dit, je suis trop contente. En plus, à l'époque, tu gagnais le swipe up. Donc, je me suis dit, je vais faire un biscuit sur ça pour marquer le coup. Donc, je fais sur un coup de tête un biscuit avec marqué à 20 000 abonnés, j'enlève le haut. Je poste sur Insta et je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai 4 ans, avant que j'atteigne le 20 000 pour voir ce qui va se passer, etc. Sauf que là, le compte, il a commencé à exploser. C'est vraiment où on est sorti de l'ombre. Les gens, ils ont partagé de ouf. Ah, bientôt, Chantilly Biscuit va se mettre top là, c'est tout. suivez Chantilly Biscuit. Et en fait, c'est là où c'est parti. Et après, à chaque palier d'abonnés, j'ai mis des défis et c'était parti complètement. C'était que de l'impro.
Génie, talent, métier, débrouillardise. Il faut admettre que tout homme, quel qu'il soit, est un mélange de ces quatre facultés. Tout est dans leur proportion. Je suis Guy Berton, entrepreneur multirécidiviste, fondateur d'Investir à plusieurs, cabinet de conseil en management et administration d'affaires. Avec Débrouillard, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes talentueuses dans l'univers des affaires, du sport, de l'art, des associations et même de la politique, prêtes à nous dévoiler leurs inspirations, leurs prises de risques, leurs réussites, leurs échecs et toutes les leçons qu'elles en tirent. Je vous invite avec moi à plonger dans leur univers, s'inspirer de leur parcours afin de radicalement faire exploser nos objectifs. Parce que seul on va plus vite, ensemble on ira plus loin. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Chantilly BRL, j'espère que je prononce bien le nom.
BRL, mais t'inquiète.
BRL, ok. La biscuine de Chantilly Biscuit. Salut Chantilly, ça va?
Salut, ouais, toi?
Bah, ça va super. Déjà, d'où te vient ce surnom de biscuine? C'est toi qui t'es proclamé
non,
au...
Non, d'Instagram, c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est un jour, quelqu'un avait fait un commentaire sur un post et il avait mis « tu es la reine du biscuit ». Et j'ai reposté, et en fait, quelqu'un a répondu à la story et a dit « Ah ouais, la biscuine, quoi !» Et je me dis « Bah oui, la biscuine !» Et en fait, à partir de là, c'était parti. Et maintenant, il y a plein de gens qui m'appellent la biscuine plus que Chantilly, quoi.
Trop. Yes, Chantilly, comme je disais précédemment, j'ai plein de sujets pour toi. Où est-ce que Chantilly, pour ceux qui ne le connaissent pas, tu vas nous pitcher ta boîte tout à l'heure. Je te propose peut-être pour commencer de te présenter succinctement.
Succinctement. Yes. Alors, donc je m'appelle Chantilly, c'est mon vrai prénom. Ça, c'est un running gag. J'ai créé Chantilly Biscuit il y a quasiment 9 ans. On fait des biscuits personnalisés. Et ouais, j'aime pas me définir juste par ma boîte. Je dirais que je suis quelqu'un de très créatif, spontané. Et moi, ce qui me plaît, c'est la création et tout ce qui est le wording, le storytelling. Et c'est ce que j'ai insufflé dans la boîte. Je suis basée dans le sud. On est entre Aix et Marseille. Après, je fais pas mal d'allers-retours à Paris. Que dire d'autre? Je suis une vraie célibataire, ça fait partie des running gags de Chantilly, ce qui fait que je donne beaucoup de mon temps à la boîte. Et voilà,
mais
je
pourquoi
suis pourquoi
t'en parles en plus en toute transparence?
Bah, en fait, c'est parce qu'en général, quand les gens se présentent, ils disent « je suis mariée, j'ai 3 enfants », tu vois. Bah moi, je dis « bah moi, je suis célibataire
». Bah, des fois, t'en joues un petit peu quand on regarde.
Ah oui, bah en fait, ça me fait rire. En fait, je vois Instagram. Pas pourquoi c'est censé être un tabou ou quoi.
Des fois, on n'arrive pas à savoir est-ce que c'est de la déprime ou alors c'est vraiment on reste du jeu, tu vois.
Ah non, en fait, je le dis pas en mode je suis triste, en mode je l'assume. Et en fait, moi, j'adore mon côté célibataire, je suis libre, je fais ce que je veux. Et c'est pas en mode je me victimise, quoi. Au contraire, c'est plus je l'assume.
Yes. Nice. Yes, donc Chantilly Biscuit, tu as dit ça fait à peu près 9 ans que tu as créé cette boîte. Tu vas me donner un petit peu de contexte. Comment est-ce que tu lances cette boîte? Déjà, peut-être avant, c'est quoi ton profil? Est-ce que tu as des parents entrepreneurs? Comment est-ce que tu rentres dans le game de l'entrepreneuriat, du business?
Alors, je suis rentrée dans le game complètement par hasard. Moi, mes parents, ils n'ont rien à voir avec ça. Et ils ne sont pas du tout dans un milieu entrepreneur. Autour de notre famille, il n'y a pas vraiment de gens qui ont monté des business. Et en fait, moi, à la base, j'ai que le bac et je ne savais pas ce que je voulais faire. Du coup, pour la faire très courte, j'ai trouvé un travail dans une boîte qui faisait des éclairages high-tech, enfin bref, très, très niche. Et je faisais, j'étais à l'atelier, je faisais la fabrication des éclairages. Jusqu'au jour où j'ai eu l'idée de Chantilly Biscuit. Et en fait, quand j'ai eu l'idée, je me suis même pas dit je vais créer une boîte, machin. Je me suis dit cette idée, elle est géniale, elle n'existe pas. Je vais la faire juste pour la faire exister parce que moi, ça m'amuserait trop de pouvoir offrir des biscuits avec des messages à mes potes. Et c'est comme ça que ça a démarré.
Mais comment est-ce que tu as eu justement l'idée? C'est une série que tu as regardée ou comment est-ce que l'idée justement de... Parce que des biscuits, il y en a plein d'entreprises, d'industries qui le font déjà. Maintenant, le fait peut-être de le personnaliser, bon, je ne sais pas si en 2016-2017, il y en avait déjà, mais comment est-ce
Attends,
que
moi,
ça
j'ai
peut...
démarré en 2013. Avant
Ah ouais,
encore.
je m'excuse. 2017, là, c'est plus parce que c'est là où on a commencé à plus te voir sur des
Et
réseaux
ouais.
comme Instagram. Ouais.
Non, non, moi je démarre en 2013 et en fait l'histoire c'est que à un anniversaire on m'offre un tampon à biscuits sur lequel il est marqué approuvé par le chef. Donc je fais les biscuits et je me suis dit c'est marrant d'avoir un message sur un biscuit, mais approuvé par le chef c'est nul. S'il y avait eu un message plus drôle, j'aurais pu les offrir à quelqu'un. Et c'est là où je me suis dit ce serait génial de pouvoir faire des biscuits avec des messages personnalisés pour pouvoir les offrir. Et c'est juste et c'est comme ça que ça a démarré et voilà.
Mais là, est-ce que tu pensais vraiment à créer une entreprise ou c'était juste ben, je
Non,
vais faire
mais
plaisir à
non, pas
deux,
du
trois
tout.
potes
En fait, là, moi, je te parle, quand j'ai eu l'idée, c'est fin 2012, il n'y avait pas tous les podcasts entrepreneurs, monte ta boîte, machin. C'était vraiment pas du tout un truc aussi connu et aussi à la mode qu'aujourd'hui. Moi, c'est juste, je me suis dit, c'est fou que ça n'existe pas. Je vais le faire, mais pour m'amuser, en fait, mais je vais pas monter une boîte. J'ai mis très longtemps avant de dire, je suis entrepreneur. Peut-être 3-4 ans, tu vois.
C'est assez intéressant. Donc, du coup, au début, j'imagine que tu es toute seule. C'est toi qui fais en même temps la partie SAV, la partie aller chasser des clients et aussi la fabrication des biscuits
Ouais,
derrière.
alors en
Comment est-ce que
fait,
ça se
moi,
passe?
je ne suis jamais allée chercher de clients, enfin, allée chasser de clients. Tu vois, même dans notre ADN, Chantilly Biscuit, on est plus une boîte marketing qu'une boîte sales. Ça a été un peu notre à refaire, tu vois, j'aurais fait ça différemment. Moi, en fait, je me suis dit, j'ai pris les choses comme elles sont venues, tu vois. Je me suis dit, OK, donc si je veux le faire, donc il faut que je crée les recettes. Donc, attends, si je veux le mettre en ligne, donc il faut que j'ai un logo. Donc, s'il faut que j'ai un site, donc il faut que je trouve un moyen de les envoyer. Et en fait, j'ai pris. Les problématiques au fur et à mesure sans me projeter, sans me poser trop de questions. Et pendant 2 ans, j'ai tout fait toute seule à la main dans mon appart.
Et qu'est-ce que ça demande comme moyen dès le départ? Est-ce qu'il faut un capital, je sais pas, pour par exemple les biscuits, j'imagine qu'il doit y avoir des appareils industriels dédiés pour la fabrication. Ça se fait à
Non,
la main au
alors.
début?
Moi, j'ai vraiment démarré avec 0 €. Après, nous, la particularité, c'est que comme on fait de la personnalisation et qu'on produit à la commande, enfin, à l'époque, c'était je produisais à la commande, les gens commandent, ensuite, je fabrique les biscuits et je leur livre. Donc, en fait, j'ai démarré, j'avais pas besoin d'argent. Enfin,
Ah d'accord, donc les gens ils payaient
j'avais. Ouais,
avant d'être, ça te permet
en fait,
d'avoir
moi,
un
j'ai
petit
pas
peu
de
de roulement.
stock, j'ai
Ok.
aucun stock, j'ai aucun revendeur. C'est tu passes ta commande, je la fabrique et je te l'envoie. Et donc, en fait, on a toujours fait en flux tendu comme ça, ce qui nous a permis d'avoir un business très sain, très rentable. Vu qu'on n'avait jamais eu de stock à avancer, de gros investissements à faire en termes de produits, quoi.
Yes. À quel moment est-ce que tu as senti que là, t'es en train de créer une boîte, là, c'est en train de partir. Par exemple, je sais pas, à quel moment est-ce que tu as recruté la première personne? J'imagine que c'est parce que forcément il y avait un flux beaucoup trop élevé de.
Non, alors en fait, moi j'ai démarré en faisant 2 ans toute seule dans mon appart, jusqu'au stade où j'ai eu trop de commandes pour pouvoir les faire moi à la main. Et là, je me suis associée à 2 mecs plutôt profil finance, parce que moi je ne savais même pas comment tu recrutes, etc., qui m'ont permis de structurer la boîte, faire un premier tour de financement bancaire pour acheter des machines, trouver un local. Et c'est là où
Financement
on a
bancaire,
recruté la.
c'est juste le prêt de la banque, c'est pas une levée de fonds
Non,
classique.
non, des prêts, prêts bancaires, prêts
Ok.
d'honneur, etc. Subventions, etc. Et c'est là qu'on a recruté la première personne. Et le
Ah,
but, c'était de
d'accord.
moi me faire sortir de la prod, en fait, aussi.
Et c'était le cas avec ce que vous avez. Tu peux communiquer à peu près combien vous avez levé
À
en.
ce moment-là, à peu près 100 000 euros.
100 000
Mais
euros.
on a tout mis dans les machines et limite, on n'avait même pas assez parce qu'il y avait des travaux un petit peu à faire. Mon père, il nous a avancé 10 000 euros à ce moment-là parce qu'il nous manquait 10 000 pour acheter une machine. Voilà.
Et c'était toujours dans ton appart quand tu parles des
Non, non,
travaux,
non,
c'est où?
là, ça, les machines, ça ne les rentre pas dans une maison.
Ok.
Et du coup, on avait pris un petit atelier de prod. Enfin, c'était en sorte de
Un
hangar, quoi, qu'on a
entrepôt, ok.
aménagé. Mais petit, il faisait 170 mètres carrés.
Ok, ouais, top. Et ensuite, là, tu as recruté la première personne. Et comment est-ce que tu... Déjà, les deux profils, tes deux associés, ils étaient pas du tout impliqués sur la partie opérationnelle, que sur l'admin, quoi.
Alors, ça dépend ce qu'on entend par opérationnel. Après, ils étaient
En tout
vraiment.
cas, pas à l'usine, quoi. Enfin,
Non,
est-ce que
pas. En
je peux
fait,
parler
non,
d'usine? Je sais pas si usine, c'est le bon
non. Dans
terme.
la prod, tu peux dire la
Dans la
prod.
prod, ouais.
Non, non, ils n'étaient pas du tout dedans. Eux, ils étaient à Paris. Ils ont aidé pour tous les côtés banque, financement, bon, même travaux, etc. Mais tout ce qui est prod, non, non, ils n'étaient pas dedans.
Comment est-ce que tu structures la partie des personnes qui sont sur place? Parce que tu as recruté une première personne, mais j'imagine que la personne n'a pas pu prendre directement le lead tout seul sur la fabrication des...
Bah, en fait, la première personne, l'idée, c'était qu'elle fasse les biscuits. Donc, moi, j'étais là avec
Et
elle.
t'étais complètement plus dans la boucle.
Ah, si. En fait, elle m'aidait. Moi, une seule personne, c'était pas assez. On le faisait à deux. Mais si, moi, je suis pendant, je pense, 2 ans. En fait, j'ai démarré en 2013. Elle allait arriver fin 2015. Et je pense que jusqu'à 2017, j'étais avec eux en prod. J'étais beaucoup moins. Enfin, j'étais plus. Pas full time, mais je faisais bien des demi-journées en prod, ouais.
Yes.
Et ça
Et
fait que 6 mois que je ne touche plus du tout la prod.
6 mois, tu dis 6 mois à partir d'aujourd'hui, si je comprends bien.
Ouais, ça fait que 6 mois où je vais jamais les aider. Sinon, il y avait toujours des moments où j'allais en renfort, etc. Et là, maintenant, ils sont complètement autonomes.
Attends, je sais pas si j'ai bien compris. 6 mois depuis 9 ans, donc ça fait 6 mois aujourd'hui que tu mets plus tes pieds.
Après, quand je dis je mets plus mes pieds, c'est que
En fait,
je ne mets pas une seule journée. Parce
t'as
que
plus
sinon,
besoin
tous
de
les
ça,
ans, tu
quoi.
as toujours un moment, soit à Noël, tu sais, où il faut aller pendant une semaine, ou quand il y a un gros pic de commandes, ou quand tu as une machine. L'année dernière, on a une machine qui est tombée en panne. Donc pendant 2, 3 semaines, j'étais en prod tous les jours, parce que tu ne peux rien faire d'autre. Mais là, ça fait, oui, 2022, c'est sûr que je ne suis pas allée. Ouais.
Ah ouais, quand même. Après 9 ans, c'est
Ben
dur
en
quand même.
fait,
C'est
ce que les
dur,
gens
on
ne se
parle
rendent
pas
pas
assez,
compte.
on regarde juste Instagram, mais c'est dur si à côté tout ce que tu produis comme
Ben
contenu.
après, j'y allais pas toute la journée, toute l'année, hein. Mais je pouvais faire allez, une demi-journée par mois quand il manquait quelqu'un, ou à Noël. À Noël, c'était sûr que j'y étais. Mais non. Après, quand c'était un peu de temps en temps, ça ne me dérange pas. Au contraire, tu vois, ça montre aussi aux équipes que tu sais faire, etc. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est de gérer une prod. En fait, tu as tellement d'aléas, de machines, de gens qui ne sont pas là. Tu as une grosse commande qui tombe. D'un coup, tu n'as pas le temps de t'organiser. Ben, tout le monde va aider. C'est compliqué à gérer.
J'imagine bien. Mais là, quand tu commences à faire entrer les premiers collaborateurs, comment est-ce que tu
Ah, ça coupe. Ah, ça a coupé.
redéploies? Tu m'entends là?
Ouais, c'est bon, j'ai juste pas entendu la phrase.
Ouais, je dis quand tu justement fais rentrer ces premiers collaborateurs, comment est-ce que tu redéploies toi tes comment je vais dire tes tâches à toi? Est-ce que toi tu vas un peu tu vas forcément aller beaucoup plus sur le digital, Instagram pour aller justement communiquer sur ce que tu fais, mais c'est comment est-ce que ça s'organise ça, tes nouvelles tes...
En fait, ça fait au fur et à mesure selon les besoins du moment. Hein. Tu vois, il y a eu un moment donné, il y avait les problématiques de machine, donc je passais du temps dessus. À un moment donné, les problématiques de financement, je passais du temps dessus. Ça pouvait être le déménagement, ça pouvait être des recrutements. Enfin, en fait, tu es un peu le bouche-trou de tout ce qu'il faut faire, quoi. Et c'est quand même que longtemps après que je me suis mis vraiment purement là où je suis forte, de tout ce qui est la partie créative, réseaux sociaux, etc. Marketing, quoi.
Ok, donc qu'est-ce que je disais tantôt? Je sais même plus. Ah, j'étais en train de dire que comment est-ce que tu répartis en fait les tâches lorsque tu as de nouveaux entrants, vu qu'avant c'est toi qui faisais quasi tout. Là, tu as
Ah,
quelqu'un
c'est ça,
qui
c'est pas bien.
a repris un petit peu le lead au niveau de la prod. Tu m'entends toujours?
Ouais, c'est bon, j'entends. Ouais.
Ok, tu as quelqu'un. tu as quelqu'un qui a repris le lead au niveau de la prod. Et toi, derrière, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu as déployé en fait, le temps que tu as pu dégager par rapport à ça?
En fait, ça dépendait des moments, hein, ça dépendait des sujets. Il y avait des moments où, tu vois, quand j'avais le sujet du déménagement, des machines, ça m'a pris du temps. Toujours des trucs de recrutement, tu as des trucs de rendez-vous client. Enfin, ça dépendait, en fait, j'ai pas. Ça dépendait des périodes de la boîte, mais c'est sûr qu'à partir du moment où j'ai pu me dégager du temps de prod, c'est là aussi où j'ai pu prendre plus de temps pour les réseaux sociaux, pour les clients, etc. Mais ça a été assez. Selon les trucs du moment, quoi.
Yes, tu vas nous parler justement pour les réseaux sociaux, notamment Instagram, comment est-ce que tu fais. Avant ça, je voulais que tu... Là, tu as combien de collaborateurs au jour d'aujourd'hui?
Là, on est 17-18.
Ah ouais. Ah ouais, ça fait quand même... ça fait une grosse évolution là, par rapport à il y a quelques années. Et pour la plupart, ils sont sur la prod ou...
Oui, ils sont plus de la moitié en prod, ouais.
Ok. Et au niveau des réseaux, est-ce que là, t'as réparti ou c'est toujours toi? Je sais qu'à un moment, c'était toi...
Instagram, c'est que moi. Les réseaux sociaux, c'est que moi. Enfin, les
non,
réseaux sociaux,
c'est pas,
tous les réseaux...
pas possible. C'est plus de 100 000 abonnés, j'imagine.
Ah ben ça, c'est que moi. C'est moi toute seule.
Et tu peux pas gérer tous les messages qui rentrent et tout.
Mais en fait, on n'a pas 100 000 messages.
Ouais, je sais, mais quand même, forcément.
C'est largement gérable. En fait, je pense que nous, on a un concept où, par exemple, je pense que si tu as une marque de fringues, tu peux avoir des tonnes de messages. C'est des questions sur les tailles, des questions sur les retours, etc. Nous, on n'est pas non plus un truc où il y a trop de questions. Je pense que le concept, il est assez clair. Il y a un petit peu, mais ça se fait. Hein. Franchement, ça se fait. Hein. Après, c'est sûr que si ça m'est arrivé de faire des jeux sur Instagram où là, ça a déclenché pas mal de réponses ou de commentaires, etc. Donc, il y a des jours, je sais, s'il y a un truc que je veux poster qui va générer des commentaires, je passe une journée à répondre aux gens. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais le quotidien, il n'y a pas du tout besoin. Non.
Et pourquoi est-ce que tu veux garder la main là-dessus? Ce ne serait pas intéressant pour toi de déléguer ça?
Déjà parce que j'adore. Donc, moi, j'adore le faire. Je suis ultra exigeante sur Chantilly Biscuit, la marque, etc. Et je pense que c'est une vraie valeur pour les gens qui nous suivent de savoir qu'ils me parlent à moi. Et tu vois, ils m'appellent « Salut Chantilly », etc. Et je trouve que le rapport que tu as avec la marque, il est complètement différent parce que tu sais à qui tu parles. Tu mets vraiment un visage, tu sais que tu parles à la fondatrice. Ça peut être problématique parfois parce que du coup, ceux qui ont capté que c'était moi qui répondais, du coup, ils me prennent pour leur meilleur pote, ils m'envoient 3000 messages. Moi, à un moment donné, je peux passer ma droite de parler. Hein. Mais non, pour moi, c'est complètement différent. Enfin, le lien que tu as avec la marque, il se crée aussi avec la personne avec qui tu parles, quoi. Et moi, ça me garde aussi un lien avec les clients. Tu vois, je vois les questions qu'ils posent, je vois les problèmes. Parce qu'il y en a plein aussi qui prennent Instagram pour le service client, donc tu vois, je me rends compte quand il y a des soucis, et je pense que si t'as pas un minimum de contact client, t'es un peu à côté de ton business, quoi.
Yes. Et c'est quelque chose que tu te vois, tu penses que ça sera toujours le cas dans 3 ans, 5 ans?
Après, là, honnêtement, Instagram, ça a plus du tout la puissance que ça avait avant, toutes les marques le disent, avec le nouvel algo, etc. Donc moi, je pense que j'ai prouvé ce que j'avais à prouver sur Instagram, j'ai fait ce que j'avais à faire, ça m'amuse toujours, mais c'est pas... rien n'est jamais définitif. Et je me dis jamais, ça changera jamais. On verra. Après, la difficulté, ça va être de trouver quelqu'un qui a la vraie plume Chantilly Biscuit. C'est pas si simple. Ça paraît simple, mais c'est pas si simple.
mais est-ce que c'est une question d'avoir la vraie plume de Chantilly Biscuit? C'est plus quelqu'un qui te ressemble, toi, quoi. Parce qu'en fait, Chantilly Biscuit, c'est toi. Parce que moi, quand je regarde la marque, franchement, je l'imagine pas sans toi, quoi. J'arrive pas à l'imaginer sans toi. Peut-être que c'est possible, hein, mais.
Pour l'instant, c'est pas une question, vu que je suis là. si, pour moi, ça peut être comme, tu vois. Le slip français ou Michel Augustin.
Mais ils n'ont pas le nom sur le slip français, ils n'ont pas le nom.
Michel Augustin, alors, si tu préfères. Tu vois, ils étaient là au début, ils sont partis. Après, c'est sûr que tu perds un truc quand même dans la marque, forcément, vu que ce n'est plus la tête des fondateurs. Mais le business continue de tourner en vrai.
Ouais, non, c'est pas fou.
Après, si ça se trouve, admettons un jour j'en ai marre, je me casse, eh ben, je pense que tu peux aussi donner une autre direction à Chantilly Biscuit et ce sera un nouveau chapitre, tu vois. Enfin, rien n'est non plus, je sais pas. Tu vois, c'est comme les. On peut changer quoi.
Et du coup, c'est le principal vecteur avec lequel vous réussissez à avoir des clients. Est-ce que il y a d'autres vecteurs quand même secondaires intéressants? Je sais pas, peut-être du TikTok.
Non, c'est pas le principal vecteur aujourd'hui.
Ah
ça
bon
l'a été, mais aujourd'hui Instagram n'apporte plus l'attraction qu'il apportait avant.
C'est quoi aujourd'hui? C'est du TikTok? C'est quoi?
Non, il y a pas vraiment un truc qui sort du lot. Ça va dépendre. Ça va dépendre du type de. Genre, on n'a pas les mêmes canaux d'acquisition pour la partie mariage que pour la partie B2B, que pour la partie B2C. C'est sûr qu'il y avait un moment où c'était que Instagram. Enfin, c'était ultra puissant. Il y avait un moment où il y avait plus de trafic sur le site qui venait d'Instagram que de Google. Bon, ça, c'était il y a longtemps.
Ah oui.
Ça, c'était il y a très longtemps. Hein. C'était genre 2017 ou 2018, je pense. Mais non, maintenant, ça dépend des typologies de leads. C'est pas que Instagram.
Yes. Et à ce niveau-là, ça va être, si on peut rentrer légèrement dans le détail, ça va être quoi? Ça va être des
parutions.
Alors,
je rentre pas dans le détail, parce que comme je suis copié de partout, je ne vais pas donner des astuces.
Ben, quand tu dis copier, qui te copie en fait? Qui peut...
Je suis copié de partout. Ah, si.
Ouais, mais qui peut. Enfin, ça reste quand même dans le game des biscuits personnalisés, tu veux dire?
Ah ouais. Après, je reste la biscuine et personne n'a l'image de marque qu'on a et personne n'a l'âme de Chantilly Biscuit. Mais il y en a plein qui se mettent à faire des biscuits, ouais, c'est sûr. C'est le jeu. Hein.
Ouais. Mais bon, ça, en même temps, ça peut être aussi une consécration d'être.
On peut dire ça.
Yes. et aujourd'hui, s'il faut parler peut-être de la partie technique, est-ce que tu as des gens à ce niveau-là avec qui tu bosses? Comment est-ce que c'est? Est-ce
que c'est toi qui... de quel secteur technique?
Par exemple, pour sans donner peut-être les chiffres exacts, mais peut-être, je sais pas, quelqu'un qui va travailler au niveau de la data pour essayer de te dire d'où est-ce que les différentes sources.
Ah non, on a personne, on n'a pas de CTO, on n'a pas de dev. Nous, on a Google Analytics. Après, on a une agence avec qui on bosse pour la partie ads. Voilà. Après, on a les stats du Shopify, quoi, mais ouais.
Mm-hmm. Et est-ce que tu peux donner quand même une tendance entre les leads qui viennent de façon organique et ce qui vient avec du paid?
En vrai, je sais même pas, parce que je regarde jamais.
Okay.
Et non, je vais pas donner trop d'indications non plus.
Ouais, je comprends.
C'est stratégique. Après, c'est sûr que... mais tu vois, jusqu'à 2018, j'ai pas dépensé 1 € en pub.
Mm-hmm.
Parce que tout venait organiquement d'Instagram, de la presse, du bouche à oreille, etc. Et c'est qu'après, on a commencé à appuyer sur l'accélérateur.
Yes. Et vous produisez à peu près combien de biscuits par jour aujourd'hui, en 2022?
Entre 10 et 40 000.
Waouh! Par jour?
Par jour.
Les 17 personnes, là, ils font en prod.
Ah, bah, c'est pas les 17 en prod. Hein. C'est
une partie en plus, ouais.
Ouais.
Ah, c'est effrayant. Yes. Et dans le bon sens du terme, hein, c'est pas péjoratif.
Ah, c'est
pas mal. Est-ce que tu peux un peu nous partager pour ton compte Instagram, pour boucler sur Insta, comment est-ce que tu as fait pour faire grossir ce compte en casier organique? Peut-être tu pourras, ça serait l'occasion de nous parler un petit peu de la série du jeu Topless que tu avais lancé.
Ah oui. comment j'ai fait? Bah déjà, je pense que je suis arrivée au bon moment, en vrai. Que ce que j'ai pu le faire, je l'ai fait parce que j'étais au bon timing et qu'aujourd'hui, c'est plus si facile que ça de grandir, de créer une communauté de 5000 personnes organiquement. Et en fait, au début, je postais vraiment n'importe quoi sur Instagram. Je postais autant ma vie que les... Enfin, il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas de belles photos ni rien. Et à partir d'un moment, je me suis dit, bah, attends, je vais faire des biscuits exprès pour Instagram. Et je veux faire des biscuits pour toutes les situations du quotidien et montrer tout ce que tu peux dire sur un biscuit. Et ça peut être vraiment un message, une insulte, une déclaration d'amour, un truc drôle, un truc où tu te dirais jamais je vais le dire sur un biscuit. Et en fait, c'est là où ça a commencé à être organique, où les gens ont vraiment suivi. Et en plus, les gens, ils se retrouvaient dans les situations. Donc, dès que je mettais un truc sur, tu vois, je dis n'importe quoi, sur ton mec qui te répond pas, je faisais un biscuit sur ça, et ben tout le monde taguait ses potes en mode ouais, je vais lui offrir ça et tout. Et en fait, c'est ça qui a fait grossir le truc. Plus au moment où les stories sont arrivées sur Instagram en 2017, là j'ai commencé à parler aux gens, ils ont vu qui j'étais, c'était très spontané, très naturel, et ça a aussi créé un vrai attachement à Chantier Biscuit. Les stories, ça fait partie des choses qui ont fait exploser le compte.
Ouais, mais après, ça c'est parti un peu en... enfin.
C'est... Après, c'est parti en live!
Déjà, comment t'as eu l'idée de ce truc-là? Et est-ce que tu avais vraiment l'intention de le faire quand tu as lancé le jeu?
Ah non, mais en fait, cette histoire est partie complètement hors de contrôle. En fait, quand j'ai atteint les 10 000 abonnés, donc j'ai mis 4 ans à atteindre 10 000 abonnés, et je me suis dit, je suis trop contente. En plus, à l'époque, tu gagnais le swipe up.
Ouais, dit, en plus.
Je vais faire un biscuit sur ça pour marquer le coup. Donc, je fais sur un coup de tête un biscuit avec marqué à 20 000 abonnés, j'enlève le haut. Je poste sur Insta. Et je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai 4 ans, avant que j'atteigne le 20 000 pour voir ce qui va se passer, etc. Sauf que là, le compte, il a commencé à exploser. C'est vraiment où on est sorti de l'ombre. Les gens, ils ont partagé de ouf. Ah, bientôt, Chantilly Biscuit va se mettre topless et tout. Suivez Chantilly Biscuit. Et en fait, c'est là où c'est parti. Et après, à chaque palier d'abonnés, j'ai mis des défis. Et c'est parti complètement. C'était que de l'impro.
Et là, à un moment, tu t'es pas dit, si vraiment on atteint les chiffres, là, je dois peut-être tenir ma parole et exécuter ce que j'ai dit.
Je l'ai fait.
Non, mais pas vraiment. T'as fait en retourner, quoi. Tu t'es pas.
En fait, c'est vrai que j'ai pas suivi après. Je me suis dit, je peux pas faire ce que les gens attendent parce que c'est trop attendu. En fait, tu vas pas les surprendre. Il faut les surprendre. Donc, j'ai fait la photo topless. Donc, j'ai enlevé le haut et je me suis retournée et j'ai mis un biscuit à 40 000 abonnés. Je me retourne. Donc ça a refait un nouveau défi, ça a monté, et à 40 000 abonnés, j'ai fait la fameuse photo topless avec le biscuit devant les seins que tout le monde attendait, qui est, je crois, la photo la plus likée du compte. Et après, j'ai continué à mettre des défis, etc. Mais ça, en fait, c'était que de l'impro. À chaque fois, c'était arrivé à 38 000 abonnés, je faisais ma photo, qu'est-ce que je vais faire, etc. On a jamais su la fin de l'histoire jusqu'à ce que je la trouve, quoi.
Mais c'est quoi la fin de l'histoire? Je te cache pas qu'à ce moment, je me suis dit, la meuf, elle est devenue vraiment folle, là, parce que là...
C'est vrai, tout est ça. Bah, la fin de l'histoire, c'est que donc, je passe les 40 000 abonnés, je fais ma photo topless avec le biscuit devant les seins, et je me suis dit, il faut que je mette un nouveau défi pour les 60 000 abonnés, mais je ne vais pas enlever le bas. Donc, on va orienter les défis sur un autre truc. Et donc, je fais à 60 000 abonnés, je prends un bain de biscuits. Au moins, je me dis, ça crée encore le suspense. Qu'est-ce qu'elle va faire, etc.
Je crois qu'il y avait même un truc avant pour le mariage. Je disais, ben là, forcément, c'était impossible. C'est impossible.
Et arrivé aux 60 000, je me suis dit, là, il faut que je mette un défi pour les 100 000. Un truc complètement inattendu. Personne ne doit savoir ce qui peut se passer, etc. Et en fait, c'est l'idée de ma sœur, d'ailleurs. C'est ma sœur qui m'a dit un jour, t'as qu'à dire que tu vas te marier. Oh, ben c'est génial. Et donc, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire pour le mariage. Mais je me suis dit, là, au moins, personne ne va s'y attendre. Et on pourra toujours imaginer un événement avec les abonnés, etc. Ce qui ne s'est pas du tout produit. Mais c'est parti sur un coup de tête totalement improvisé. Et c'est que à 95 000 abonnés que j'ai eu l'idée de la chute.
Et c'était quoi la chute?
Ah bah là, il fallait aller voir sur le compte Insta. C'est que je me suis mariée avec un mec et on a lancé notre gamme de thé.
Trop stylé. Ça permet de faire un peu le switch sur l'autre sujet. Tu peux nous parler justement des nouveaux produits et parce que moi, j'ai la sensation que Chantilly Biscuit aura tendance peut-être pour les prochaines années à se diversifier de plus en plus, à toucher d'autres segments. Toujours avec une certaine complémentarité avec ce qui se fait actuellement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu ça, de cette vision-là, de comment est-ce que tu vois les choses?
Oui, bah en fait, Chantilly Biscuit, ce n'est pas une boîte de biscuits. C'est une boîte qui fait du cadeau. Donc moi, je dis toujours, les gens n'achètent pas nos biscuits pour les manger, mais pour les offrir. Mmh. Et donc, la stratégie, c'est comment tu crées d'autres occasions d'achat pour les gens. C'est de proposer d'autres cadeaux qui vont avec le biscuit. Enfin, nous, c'est du cadeau lié par le biscuit, quoi. Mais on n'est pas une biscuiterie.
Ouais, moi j'irais même jusqu'à, je dirais plus une expérience, quoi. C'est vivre une expérience avec les autres. Parce qu'après, on bouffe, mais après, il y a des débats autour de ça, tu vois. C'est ça qui est encore plus cool. Et Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un truc peut-être pour l'international ou c'est purement franco-français?
Pour l'instant, on a encore beaucoup de choses à faire en France.
Je sais que tu avais eu à livrer, je ne sais pas où j'ai suivi, mais ça devait être dans le premier podcast. Je sais que tu avais eu un client en Suisse, un truc comme ça.
Oui, ah, purée, tu te rappelles de cette histoire? Ouais, c'est vrai qu'au tout début de Chantier Biscuit, en 2013, quand je travaillais encore dans mon ancien travail, j'avais une commande de 1000 biscuits à livrer chez un client en Suisse. Et c'était la première fois que j'avais cette quantité et on n'avait pas le temps de faire l'expédition, parce qu'en plus, en termes de délai, la Suisse, c'est plus long, etc. Et du coup, je suis montée en voiture avec mes parents livrer les biscuits en Suisse.
Sachant que la veille, il fallait produire tout ce truc-là
Et
en
ouais.
mode speed.
Et en fait, le temps que le client y valide, machin, que tu fasses les biscuits, que tu les emballes, il n'y avait plus le temps de faire un colis et de l'envoyer, quoi.
Et aujourd'hui, est-ce que c'est des choses qui peuvent se faire? Enfin, je dis pas de cette façon-là. Est-ce qu'une boîte à l'extérieur peut quand même commander des produits
Ah,
chez
aujourd'hui,
vous?
on livre, hein. On livre l'Europe, on livre.
Ah, d'accord.
Suisse, Belgique, Luxembourg, on livre très souvent. Après, les autres pays, vu que notre site il est en français, notre com elle est en français, on les touche moins, mais ça nous arrive de livrer, ouais.
Comment toi tu vois Chantilly Biscuit dans, je sais pas, dans les 5 prochaines années? Est-ce que tu as pas quelques offres à nous
Chantier Biscuit dans les 5 prochaines années, bah, encore plus de boîtes, enfin, une offre beaucoup plus large, autant dans les biscuits que dans les produits autour et des points de vente physiques, ouais.
Aujourd'hui, il n'y en a pas, non, si je me trompe pas. Il y a pas.
Aujourd'hui, non, on fait des pop-up stores. On en a fait deux, on en fait un troisième cette année. Et aujourd'hui, on n'a pas de vraie boutique, non. Parce que du coup, moi, je me dis, si je fais une boutique, je ne veux pas juste faire une petite boutique de biscuits. Moi, je veux faire un vrai flagship énorme avec un coffee shop, avec une chambre d'hôtel à l'intérieur. Enfin, bref. Donc,
Ah
faire
ouais.
une petite boutique, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est quitte ou double, tu vois.
Ok. Donc, mais comment est-ce que toi tu verrais l'expérience dans cette boutique-là? C'est genre tu viens pas qu'acheter un biscuit en fait, là ça serait.
Ah oui, bah en fait, nous, tu viens acheter un cadeau. Tu viens acheter un cadeau, tu plonges dans un univers. C'est pas juste, tu viens acheter des biscuits pour ton goûter, quoi.
Yes. Pour je sais pas si tu peux nous parler un petit peu de la période du Covid pendant que toutes les boîtes étaient en arrêt, en tout cas une bonne partie, la majorité. Comment est-ce que toi tu as vécu ça? Est-ce que ça a eu des effets négatifs ou positifs? Je sais pas.
Ouais, alors nous, déjà avant même le confinement, on avait de moins en moins de commandes parce que comme tous les événements étaient annulés, bah, au final, la prod, elle se vidait, tout le monde mettait en stand-by, je ne sais pas si je vais me marier, je sais pas si je vais faire mon événement, machin. Donc au final, on se dit, bah, on va fermer la prod parce que ça nous coûte plus cher de faire 300 biscuits par jour que de fermer au final. Donc on a fermé pendant 2 mois. Moi, j'ai vécu ma meilleure vie. Je pense que c'était mes 2 mois préférés de tout Chantier Biscuit. Enfin, j'exagère, mais c'était la première fois que je pouvais faire une vraie coupure. Parce que même quand je pars en vacances 2 semaines, tu coupes pas vraiment, en fait. Tu sais que t'as toujours le truc qui tourne, toujours du problème qui tombe, etc. Que là, bah, il se passe rien. Enfin, donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de clients livrés, il n'y a pas de salariés. Et du coup, moi, mon enjeu, c'était comment tu maintiens la communauté pendant 2 mois sur Instagram, sachant que tu pouvais pas faire de biscuits. Donc, j'ai fait des jeux, j'ai fait des lives, j'ai fait des newsletters, machin. J'ai fait des vidéos. Et avec mon équipe marketing, on a continué à bosser pour préparer des offres qu'on a sorties après le confinement. En plus, sortie de confinement, il y a eu Fête des Mères, Fête des Pères. Donc là, on avait le temps de préparer des super trucs qui ont super bien marché. L'été, on a sorti quelques coffrets super cool. Et puis non, au final, nous, 2020, on a fait de la croissance, alors qu'on est dans l'événementiel, mais pas beaucoup de croissance, mais on en a fait.
Mais vous n'étiez pas quand même en perte par rapport à l'année d'avant, quoi.
Non, on était en croissance, c'est ce que je dis.
Ah ouais. Ok.
On a fait
Et
un
est-ce que
petit peu
tu
de
devais.
croissance, alors qu'on a
Est-ce que
fait deux
tu.
mois de vide, quoi. Mais...
Et tu devais quand même. Tu avais quand même de la trésorerie, tu devais payer des salaires parce que tu avais déjà des salariés
Bah, en
quand
fait,
même.
on avait tout le monde en chômage partiel. Sauf ceux qui bossaient, enfin, sauf le marketing qui
Marketing.
bossait avec moi. Et puis après, on a continué d'utiliser le chômage partiel quand on avait besoin, parce qu'on avait des gens qui n'étaient pas full-time. On avait un commercial qui était plus sur la partie café, hôtel, resto, donc lui, il est resté en chômage partiel pendant longtemps. Mais non, on avait fait un. On a fait un prêt, on a pris des
Prêt
PGE,
garanti par
etc. au
l'État.
cas où, mais en fait, on l'a remboursé tout d'un coup parce qu'on ne l'a même pas utilisé. On s'est dit, ça ne sert à rien de nous endetter en plus. Mais non, non, on n'a pas eu. Bon, on a eu peur, c'est sûr, hein, mais au final, la fin d'année a bien rattrapé, quoi.
À quel point tu as eu peur? Tu t'es dit que ça pouvait être la fin? Je sais que c'est
J'ai
quelque
eu
chose
peur
qui
pendant
parfois
deux
te
jours, on va dire, 2 jours. Au tout début, quand il y a eu le confinement, vraiment, c'est en mode, enfin, le premier jour, quoi, où quand tout le monde allait stresser, etc., je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer, machin. Et en fait, je me suis dit, et même si ça s'arrête, chantilly biscuit, et ben, ce serait pas de ma faute, en vrai. Donc, en fait, dès que tu dis, c'est pas ta faute, eh ben, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce que tu peux faire? Enfin, je maîtrise pas le Covid. Enfin, donc, ça sert à rien de me dire, de m'en vouloir. Donc, je me dis, ben, si ça s'arrête, si ça doit s'arrêter parce que, enfin, on n'a pas les moyens de maîtriser, quoi. Et au final, ben, ça s'est pas arrêté.
Ouais.
Mais non, j'avais. Après, si ça se trouve, ça s'était vraiment arrêté, j'aurais pas eu cette réaction. Mais en fait, je le vivais comme ça et je me suis dit, ben, en fait, tu vois ce qui se passe, tu profites et puis tu feras ton maximum, quoi. Tant que tu fais ton maximum, qu'est-ce que tu vas t'en vouloir, quoi.
Yes. Je sais que tu as un peu bossé, ou peut-être c'est toujours le cas avec The Family. Qu'est-ce que eux ils t'ont apporté par rapport à ton business? Ils ont des
Alors,
parts dans ta boîte?
ouais, ils ont des parts. C'est pas, voilà, c'est pas
Ok.
qu'on a bossé, c'est qu'ils ont des parts. Moi, ils m'ont pas mal aidé au début parce que bah, moi, j'y connaissais rien. J'avais personne qui pouvait m'aider. J'avais personne dans l'entrepreneuriat, etc. Donc, ils m'ont aidé sur pas mal de sujets au début. Parce que je me suis séparée de mes associés. C'est Oussama qui m'a résolu ça. Et ça m'a apporté tout mon réseau, on va dire, que j'ai eu au début. Mes potes entrepreneurs, etc., au début, ça venait de là. Et ça m'a surtout apporté des gens à qui je pouvais poser mes questions. Parce qu'au début, j'avais personne. Quand j'avais un problème, une question stratégique, une question opérationnelle, etc., j'étais là, mais à qui je peux demander? Et du coup, d'avoir The Family, ça m'a donné ça, quoi. Après,
Yes.
je ne les ai pas ultra sollicités, en vrai, parce que j'étais quand même pas mal dans mes galères de prod, etc. Et là, ça fait des
En
années,
plus, t'es même
je
pas
vois.
sur Paris, hein. C'est pas, j'imagine que
Ouais, après, je venais
voilà.
souvent, et en fait, justement, ça, c'était aussi un super avantage de The Family, c'est que ça me permettait d'avoir un endroit où bosser, où faire des rendez-vous, où me poser, où parler à des gens, etc. Mais après, non, ça fait longtemps que je. Ouais, c'est pas que j'ai pas besoin d'eux, mais que je m'en sers pas, en tout cas.
Yes. Je sais que tu l'as mentionné tout à l'heure que tu as eu des soucis avec tes premiers associés. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement dans une autre boîte et ça s'est hyper mal passé. Je sais que toi, tu as pu trouver une solution dans tes conflits avec tes premiers associés, comme tu disais précédemment, grâce à The Family et Osama. Sans forcément rentrer dans les détails de votre conflit, peux-tu nous partager un petit peu avec le recul? Que tu as aujourd'hui, comment tu as pu aborder,
Ouais.
comment aborder en fait ce type de conflit, quoi, tu vois? Comment
Ouais. Alors,
est-ce qu'il y a des...
bon, je pense que toutes les histoires sont différentes, mais nous, c'est on s'entendait pas, on n'était pas alignés sur la vision. Moi, je pense que je me suis pas assez imposée. Bon, c'était sûr, hein, tu vois. Moi, je ne savais pas ce que je faisais, je connaissais rien à l'entrepreneuriat, je connaissais pas rien, tu vois. Maintenant, à refaire, je ne referais plus la même chose. Et donc, à un moment donné, on s'entendait plus. Sauf que ils avaient 40% des parts et tu peux pas te dire bah il y a 40% de la boîte qui dort et puis moi je continue comme ça. Donc bah en fait après ça a été de la négo etc. et comment on trouve une solution qui convienne à tout le monde pour que Chantilly Biscuit puisse continuer de grandir. Et donc j'ai racheté 3/4 de leur part de l'époque. Donc ils ont encore des parts de Chantilly Biscuit. J'ai lâché un gros chèque mais je me dis c'est le prix de la liberté de toute façon donc soit ça, soit je ne continue pas à la boîte. Et puis voilà. Et puis c'est quand ils sont partis que Chantilly Biscuit a vraiment décollé.
Mais comment on fait pour se parler justement? Parce que même pour tomber sur ce point-là de
Ouais.
négociation, il faut bien
Bah en fait,
qu'on
nous,
discute,
on ne
quoi.
se
Si on ne
parlait
peut pas
pas.
discuter ses dettes, quoi.
Ah bah nous, on ne se parlait pas. C'était les avocats qui se parlaient. Hein. Enfin, moi, je ne voulais plus
Ah
leur
ouais.
parler. Donc moi, c'était mes avocats qui leur parlaient. C'était mes avocats. Mais en
Et
fait,
toi,
comme
tu penses
moi, ils n'étaient pas dans le sud, donc ils n'étaient pas sur place. Mais si tu es sur place dans le même bureau, c'est pas la même chose, hein, je suis d'accord.
Ouais.
Mais non, à la fin, Moi, j'étais pas armée pour avoir une négo avec eux. Je savais pas quoi dire, je savais pas comment ça se passait. Je connaissais pas les règles du jeu, quoi. Et puis même, j'avais dit mon temps, il est pas valorisé à leur parler. Mon temps, il est là, il est pour les clients, tu vois, pour la boîte. Et donc, moi, c'est mes avocats qui ont géré, quoi.
Mais avec le recul aujourd'hui.
Ça a été long,
aujourd'hui...
hein. Ça a mis, je pense, il y a eu 6 mois de négo. Enfin.
Ah ouais. Ça veut dire forcément t'es tendu tout le temps. En même temps, tu dois continuer
à
faire tourner
plus,
la boîte.
Tu peux le dire à personne. Enfin, dans la boîte, les gens ne sont pas censés savoir. Moi, à l'époque, j'avais pas de copine entrepreneur. C'est venu qu'après. Du coup, je savais pas qui en parlait, etc. Donc, ça a été ultra lourd pendant 6 mois. Voilà.
Mais aujourd'hui, avec le recul, si c'était quelque chose à refaire, quelles seraient les bonnes pratiques ? Aujourd'hui, si toi, tu dois recommencer peut-être chantier,
ouais, parce que je pense que
c'est quoi les bonnes pratiques ?
J'aurais refait la même chose.
Ou une nouvelle boîte, je ne sais pas. C'est
ouais,
lorsque
boîte,
tu dois avoir
ouais.
des associés, que tu as vraiment besoin de ces... Parce que ouais. mine de rien, malgré le conflit, ils ont apporté quelque chose, quoi, les premiers
ah
financements.
Ah oui, c'est pour ça, en fait, je
tout.
Me dis, à refaire, je pense qu'il fallait que ça se passe comme ça, parce que sans ça, Chantibiscuit n'en serait pas là aujourd'hui. Ça fait partie du chemin, quoi. Donc, et ça m'a appris plein de choses, etc. Mais si je monte une nouvelle boîte, déjà, je ne sais pas si je m'associe ou pas, si je monte une nouvelle boîte, tu vois. Je n'ai aucune idée.
Ouais. Ça dépend
seule,
de ce que tu vas aussi
lourd.
Monter, quoi.
Ouais, c'est ça. Toute seule, c'est très lourd. Par contre, maintenant, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Je sais ce que je vaux. Je sais où je veux aller, je sais comment ça se passe. Enfin, tu vois, je sais comment je veux travailler. Il y a des choses que j'ai apprises, tu vois, et je peux plus imposer une vision qu'à l'époque, même si je l'avais, j'arrivais pas à l'imposer, j'arrivais pas à l'expliquer, et j'étais pas forcément légitime, on va dire, pour l'imposer à quelqu'un. Enfin, tu vois, c'est plus compliqué qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai de 10 ans de Chantibiscuit quasiment. Je sais comment j'aime travailler, je comprends ce qui marche, ce qui marche pas. Il y a des erreurs que j'ai faites que je referai pas. Donc, je ne sais plus quelle était la question.
Ouais, en fait, ma question, s'il faut reformuler, c'est dans le cas où quelqu'un doit, dans la boîte qu'il crée, se mettre, s'associer avec des gens parce que c'est stratégique pour lui, avec le recul que toi tu as, vu le conflit que tu as eu,
ouais.
est-ce que tu aurais des best practices à partager
ouais.
Est-ce qu'il y a des
ouais,
trucs, des must par exemple, lorsque tu
ouais.
te mets avec quelqu'un, ça, c'est des trucs
ouais.
auxquels tu peux pas bypasser quoi.
Ouais. Alors, j'ai un ami qui m'a dit il n'y a pas longtemps, quand tu cherches un associé, il faut qu'il ait 3 choses. Que tu t'entendes hyper bien avec, que tu puisses rester une semaine dans une maison avec lui et tu le supportes toujours. Qu'il ait une grosse capacité de travail et que vous soyez aligné sur la vision. Et à partir de là, c'est bon.
et contractuellement, est-ce que tu penses qu'il devrait... Ça vaut la... Parce que c'est souvent tabou, tu vois, le fait qu'on s'entende bien, ok, on est bosseur, on est plutôt aligné, mais il y a des aléas de la vie, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, quelqu'un peut être amené à quitter le bateau. Est-ce
ouais.
que c'est des sujets qu'on devrait avoir dès le début, des trucs un peu contractuels, je ne sais pas, pacte d'associé où ça fait trop...
Ah oui, pacte d'associé, t'es obligé.
Quoi.
T'es obligé. Nous, justement, le problème, c'est qu'on ne l'avait pas.
Moi, pareil aussi, quoi. J'en avais
on
pas.
On ne l'avait pas fait, tu vois. Et du coup,
ouais.
ça a été problématique.
Moi, je ne connaissais même pas ce que c'était.
Moi non plus. On l'a fait après, tu vois. Après, j'ai fait une levée de fonds avec les business angels. Là, il y a un pacte d'associé. Et au moins, les conditions sont posées, il y a des règles, etc. Mais non, c'est sûr que je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Et si tu te dis que au fond de toi, tu as une appréhension, tu as un doute, tu n'es pas sûr, là, il ne faut pas y aller, je pense. Et il faut se laisser une période d'essai, tu vois, où tu te dis pendant 6 mois, on bosse ensemble, on contractualise rien, on se fait des factures ou j'en sais rien, tu vois. Et une fois qu'on a bossé 6 mois ensemble, que les deux sont sûrs de comment ils veulent bosser et où ils veulent aller, là, tu peux faire, tu peux signer un truc, quoi.
Yes. Aujourd'hui, vous avez levé combien en tout ? C'est quelque chose que vous communiquez ?
Ça, je ne communique pas, non. Moi, ce n'était pas une grosse levée, mais j'ai levé en 2018 pour prendre un autre atelier de prod, les travaux de nouvelles machines.
Ah, ok. C'est combien ? C'est plus grand que le truc de l'ancien de 170 mètres carrés. C'est combien ?
Ah oui, là, on est sur 820.
Ah ouais ! Là, c'est une vraie industrie, là. Ça commence à devenir...
c'est une mini-ville.
C'est gros
quoi.
Quand même, presque 1000 mètres carrés.
Ouais.
Ok. Et il y a une nouvelle levée en cours
Non, il n'y a pas de levée en cours là.
Ok. Bah, c'est quoi? Il y a quand même forcément quelque chose. Est-ce que tu peux nous cracher quelque chose? Je sens qu'il y a quelque chose qui se
Ah
prépare.
non, je crache rien. Il y a des produits, des nouveaux produits qui sont en préparation. Voilà, c'est déjà pas mal.
Yes. Donc, avant qu'on passe sur les questions de fond, est-ce que tu peux me dire, Chantier, c'est quoi les. Quelles sont les parties les plus dures les plus difficiles de ton job, de ta vie?
Moi, je pense que le plus difficile. Je réfléchis. C'est quoi le plus difficile? Le plus difficile, c'est. Je pense que c'est d'être seul, déjà. Enfin, quand t'as pas d'associé, ben, tu portes quand même le truc toute seule. Tu vois, tu peux pas te décharger sur quelqu'un. Tu peux pas partir en vacances. J'ai mon équipe, hein, bien sûr. Mais il y a des sujets, tu peux pas leur en parler. Et moi, comme je disais tout à l'heure, je suis aussi célibataire, donc je suis vraiment seule, seule, et t'as pas vraiment d'épaule. Donc parfois, ça peut être très lourd mentalement, on va dire, quand tu peux te prendre des gros coups de pression, quand t'as des grosses décisions à prendre, bah, c'est dur. Ça, c'est dur. Et après, aussi, de pas avoir eu vraiment d'expérience ni de fait d'études. Et qu'en fait, j'ai tout appris sur le tas. Donc, il y a plein de choses que je ne sais pas, que tu es un peu censé savoir faire, tu vois. Et donc, j'ai longtemps eu l'impression de ne pas maîtriser les choses, tu vois. Autant, maintenant, j'ai appris au fur et à mesure, parce que j'adore apprendre, j'adore comprendre, etc. Tu vois, par exemple, toutes les questions de lire un bilan, les BP, les BIDA, etc. Tu vois, c'était des trucs qui m'étaient complètement étrangers, que j'avais pas, on m'a jamais appris, tu vois. Donc, tout ce qui est manager des gens, les process à l'intérieur d'une boîte, comment ça se passe normalement, etc. Tout ça, ça a été, j'ai tout appris sur le tas, un peu à la dure, et ça a été compliqué, quoi.
J'imagine que c'est pas stratégique pour toi d'avoir un associé juste pour avoir un associé aujourd'hui, quoi. Ça, c'est pas forcément
Bah, en fait,
le
maintenant,
truc
la
qui
boîte, elle est
serait le plus
lancée.
utile, quoi.
Si je remonte une boîte, je pense que je m'associerai si je trouve la bonne personne. Mais aujourd'hui, je ne vais pas faire rentrer quelqu'un alors que j'ai une équipe et que j'ai. Sauf si vraiment, enfin, je sens que j'ai besoin de quelqu'un qui ne serait pas un salarié. Non, après, maintenant, je
Stratégique.
suis pas mal entourée aussi en dehors de la boîte. Donc, je ne me sens pas forcément. Non.
Yes. Et comment est-ce que toi tu progresses justement sur ces points que tu as mentionnés dont tu n'avais pas les infos lorsque tu t'es lancé au début?
Au fur et à mesure que les choses arrivent, ben, j'apprends, je pose des questions. Et en fait, je pense que
Tu fais des
une de mes
MOOC,
forces,
tu je sais pas.
non, bah, je pense qu'une de mes forces, c'est de pas avoir peur de poser des questions et de demander de l'aide sur plein de sujets. Et j'ai aucun problème à dire ça, je sais pas. Explique-moi, tu vois. Donc sur plein de trucs. Et donc c'est comme ça que j'apprends plein de choses, quoi. Après, je pense que même s'il y a plein de choses que je connais pas, je comprends vite. Donc voilà, sur plein de sujets différents quoi. Et puis je trouve ça
Yes.
intéressant en fait.
Tu peux nous partager un de tes plus gros regrets dans ta life, dans ta vie?
De ma vie entière?
Ce qui est partageable en tout cas.
Un des plus gros regrets de toute ma vie, pas que de Chantilly Biscuit, tu veux dire.
Ouais, Chantilly Biscuit, c'est toi, Chantilly.
Alors, un des plus gros regrets de ma vie. Alors, je veux dire un truc complètement inattendu, c'est d'avoir arrêté de faire de l'équitation. Ça, je pense, c'est un des plus gros regrets de ma vie, en vrai.
C'est quoi, t'étais prédestiné à une carrière de.
Non, pas du tout, mais c'était quelque chose qui m'apportait énormément de choses. C'était ma passion, et à un moment donné, ça s'est très mal passé. Et j'ai arrêté, et je pense que je regrette vraiment d'avoir arrêté, et aujourd'hui, c'est trop compliqué de m'y remettre. Parce que j'ai pas le temps et que ça coûte trop cher, etc.
C'est un
Ouais,
truc
je
de
pense que ça
riche,
c'est.
non? Je pense qu'à un moment donné, dans les étapes, il faudrait que tu aies ton propre poney et tout ça, et ça coûte hyper cher.
Bah, en fait, si tu montes une fois par semaine, ça va, mais si tu veux vraiment avoir ton cheval et faire de la compète, oui, là, ça coûte cher. Et pendant très longtemps, j'ai regretté de ne pas avoir fait d'études, mais maintenant je me dis que c'est le fait de ne pas avoir fait d'études qui m'a amené à faire Chantilly Biscuit tel que Chantilly Biscuit est aujourd'hui. Donc il fallait que je ne fasse pas d'études.
Yes. C'est quoi une de tes plus grandes fiertés?
De mes plus grandes fiertés. J'en ai beaucoup, hein. Enfin, j'en ai beaucoup.
Bah, tu peux en citer
Je pense
deux,
que
trois.
une de mes plus grandes fiertés, c'est la marque quand même. C'est ce que la marque elle peut dégager et comment les gens, les personnes qui adorent Chantilly Biscuit, le lien qu'ils ont avec Chantilly Biscuit et ce que Chantilly Biscuit leur procure, je pense que c'est ma plus grande fierté. Quand tu as des gens
Yes.
qui te disent, enfin, j'ai déjà eu des messages, Chantilly Biscuit, c'est ce qui me fait sourire tous les matins sur Instagram, Chantilly Biscuit, ça m'a permis de annoncer ma grossesse, Chantilly Biscuit, ça m'inspire, ça me décomplexe, ça me donne envie de m'amuser, de faire des blagues, ça c'est ouf.
Bah, c'est vrai que ça fait vraiment bizarre de l'avouer. Moi, pareil, quand je vais sur Instagram, je regarde et puis je rigole. Pourtant, j'ai passé une journée de merde.
Ah, bah voilà, ça c'est une de mes
J'adore,
grandes
ça fait
fiertés.
bizarre, mais je l'avoue, je le dis publiquement. Lorsque je vais sur les stories de Chantilly Biscuit, ben, je m'éclate de ouf, quoi. C'est vraiment drôle. Les trucs avec Veuve. Donc, j'ai les trucs qui me reviennent en tête là, et puis
Vas-y,
c'est vraiment des barres, quoi. L'histoire avec. Je crois que tu l'avais publié même sur LinkedIn. C'était.
d'accord.
Je crois que ça devait être une graphique. Je sais pas si on dit design
Ah, si,
ou.
si, si, c'est une graphiste qui m'a envoyé une candidature et qui a repackagé une bouteille de Veuve Clicquot parce que j'ai gagné un prix Veuve Clicquot.
Mais ça, c'est. Il faut vraiment, vraiment te suivre pour pouvoir avoir cette idée-là, quoi. Franchement.
Ouais. Ah, non, c'est ouf. Bah, on l'a recrutée et elle est toujours là. Ouais.
Ah ouais, elle était recrutée finalement.
Ouais, elle a été
C'est vrai
recrutée.
que ça avait un peu fait polémique sur
Bah,
LinkedIn.
ça a fait polémique sur LinkedIn et sur Facebook, mais pas sur Instagram. Du
Ouais,
coup,
ils sont coincés,
j'en
dis-donc.
ai pas reparlé sur LinkedIn, mais sur Insta, bah, les gens m'ont demandé plusieurs fois. Mais du coup, est-ce qu'elle a été recrutée et tout? Elle a été recrutée, elle
Franchement.
est là.
Ouais, c'est une génie, franchement. J'ai adoré, franchement. Il y a plein d'histoires comme ça, plein de petits trucs. Et ça,
Ah, bah,
ça
il y a des
montre que
trucs
c'est
de
des
fou.
gens qui ils te suivent depuis. Et puis, c'est pas juste
Bah,
des gens
elle me
qui.
suivait pas en plus. Elle me suivait pas.
Ah bon?
Et en fait, c'est une copine à elle qui me suivait, qui lui a dit, elle, elle cherchait un job, qui lui a dit, ah bah regarde, Chantilly Biscuit recrute. Et en fait, elle a regardé le compte Insta, elle a regardé la marque, et en fait, et c'est là où elle a fait le truc. Et je me suis dit, bah, elle est encore plus faite pour Chantilly
Non,
Biscuit,
c'est
vu qu'elle a
clair.
fait ça sans suivre depuis longtemps, quoi. Elle a
Ouais.
compris. Elle a
Non,
compris.
c'est qu'elle est bonne parce que le truc avec cette bouteille de vin, il faut c'est tout un
Ah
contexte
bah.
quoi. C'est pas il faut regarder
Mais oui.
plein de trucs pour comprendre en fait pour
Exactement.
comprendre
Et c'est pour
l'univers
ça
et
que ça
tout.
a fait polémique sur LinkedIn, parce que tous les gens qui n'avaient pas cette
Ils ont pas de
référence.
contexte. Ils ont pas de contexte.
Voilà. Et en fait, ils pensent juste, ouais, on m'a offert une bouteille de champagne pour me corrompre. Alors qu'en fait, tu vois, j'ai du champagne tatoué sur moi. Veuve Clicquot, ça fait partie de l'histoire de Chantilly Biscuit, etc. Et ils n'ont pas compris ça, tu vois.
C'est ouf. Yes. Est-ce que tu aurais trois bouquins à nous recommander?
En vrai, je lis très peu.
Bah,
Je lis
s'il y
très,
en
très peu.
a un que tu devrais offrir à la communauté, ce serait lequel? Celui qui t'a le plus marqué?
J'ai envie de dire Harry Potter.
Pourquoi
je lis pas beaucoup de livres sur les entrepreneurs. J'écoute plutôt des podcasts parce que je peux les écouter le matin, etc. Et c'est vrai que je prends plus trop le temps de lire. Ou alors quand je lis, j'aime bien lire des trucs qui me vident la tête, tu vois, des livres, des histoires policières, des comédies romantiques, des trucs comme ça. Mais plus pour m'évader que pour apprendre, quoi.
Yes. Tu écoutes quoi comme podcast? Tu peux nous partager deux, trois trucs là?
Bah, j'écoute forcément Génération Do It Yourself, qui est celui que j'écoute, je pense, le plus. Et comme les épisodes sont très longs, ça me fait au moins 4 jours, parce que je les mets le matin en me préparant. J'écoute Bliss, alors qui n'a absolument rien à voir, qui est le podcast sur la maternité. Je ne sais pas pourquoi j'adore
Ouais.
écouter ces
Je l'ai déjà
histoires-là.
écouté une fois, ouais.
Un que j'aime beaucoup, c'est le podcast de Charles Pépin, qui est un philosophe. Donc, c'est des podcasts de 20 à 25 minutes. Et il prend une question, ben, plus ou moins philosophique, mais de la vie de tous les jours, n'importe quel sujet, et il parle dessus. Et je trouve que ça aide vachement à comprendre ben, la vie, le sens des choses, à relativiser. J'adore.
Yes. Est-ce que tu auras un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable? Une bouteille à la mer?
Un dernier mot pour cette génération. Bah, je dirais lâchez vos réseaux sociaux. C'est vrai, en vrai.
Quand même,
ouais, en fait, je me dis, je suis
restons
toujours dans un
cohérents,
paradoxe.
quoi.
Bah, en
C'est
fait, je
pas
suis
toi qui
toujours
vas
dans
le
un
dire.
paradoxe. Bah, justement, c'est un truc qui commence à me gêner de dire moi, je veux me désintoxiquer des réseaux sociaux et m'enlever le réflexe de quand je fais rien d'ouvrir Instagram. Ça m'énerve, tu vois. Et je me dis, les meilleurs moments de mon quotidien, je suis pas sur Instagram, tu vois. Quand je suis avec des potes, je pose mon téléphone. Tu vois, quand je vais à un concert, je sors pas mon téléphone. Quand je suis en vacances, bah, j'essaye de profiter de pas sortir mon téléphone. Et c'est là où tu as les meilleures expériences physiques réelles parce que tu es vraiment dans le truc et tu n'es pas juste là à vivre un truc pour les likes. Mais d'un autre côté, je dois dire aux gens, venez sur Instagram si vous chantez biscuit. Donc en fait, ça commence un peu à me gêner. Mais ouais, j'ai envie de dire, Instagram, c'est pas la réalité. TikTok, c'est pas la réalité. Et c'est sûr qu'au prochain business que je monte un business avec un lieu physique et pas un truc 100% digital.
Yes. On te contacte où, gentil?
On me contacte pas. Non, bah LinkedIn.
Yes, d'accord. Ah bah, si vous pouvez suivre Chantier sur Instagram, hein. C'est juste en mode
Oui, voilà,
viewer.
Instagram,
Si vous
LinkedIn.
suivez pas le conseil d'avant, au moins suivez Chantier sur Instagram, quoi. Bah, écoute, Chantier, ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? Je sais pas si on dit une
Ah bah c'est moi.
débrouillarde. Ah, c'est toi.
Ah bah moi je me suis débrouillée, hein, Chantilly Biscuit.
Ouais.
Chantilly Biscuit c'est que de la débrouille, hein. On n'y connaissait rien, on savait pas ce qu'on faisait, on n'y connaissait rien en biscuiterie, on n'y connaissait rien en digital, on n'y connaissait rien en marketing. Et on a fait que se débrouiller. Hein. Et même quand tu vois tous mes posts Insta, mes vidéos, c'est des trucs, tout est fait sans budget, sans photographe, sans studio, sans lumière. Et en fait, Chantilly Biscuit c'est la preuve que tu peux te débrouiller et faire un truc qui marche. Et voilà, et moi je préfère les choses qui sont vraiment la débrouille plutôt que les trucs ultra léchés, sans âme, voilà.
Yes, comme une artiste. Est-ce que toi, tu te vois comme une artiste?
Ah bah complètement, moi je suis plus une artiste qu'une businesswoman. Moi je suis une artiste. Avec un côté business et une certaine logique et compréhension, etc. Mais moi ce qui me plaît c'est créer plus que vendre.
Trop cool. Écoute, Chantier, je te remercie pour ton temps, pour ce partage. Quelques petits soucis techniques là, mais après,
Oui,
ça s'est
pardon.
redressé. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai adoré ce moment d'échange avec toi. Je te remercie surtout d'avoir accepté
Avec plaisir.
l'invitation. On se dit à très vite. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, merci aussi de continuer de nous suivre chaque semaine. Et puis, n'hésitez pas à aller pendant les quelques secondes que vous êtes connecté sur les réseaux de checker un petit peu le compte Insta de Chanty. Ça fait vraiment du bien. Si vous êtes un petit peu déprimé, je sais pas comment elle fait, elle a toujours en tout cas la pêche sur ses stories et ça permet de baisser un petit peu la température. C'est une petite soupape comme ça pour moi, hein. Franchement, c'est pas une blague, c'est une petite soupape. Dès qu'en fin de journée et tout, je sais qu'il y aurait un truc chelou qu'elle va partager et
C'est
puis je vais
sûr,
me
on ne sait
marrer
jamais ce qui peut
après.
se passer.
Donc, merci encore Chanty, merci tout le monde et puis à très vite.
Avec plaisir.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Débrouillard jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager avec votre communauté sur les réseaux sociaux. On adore vous lire, donc allez mettre une note 5 étoiles et un gentil commentaire. Ça aide énormément le podcast à être découvert. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à la newsletter sur débrouillard.io/mail. Je vous envoie chaque dimanche le nouvel épisode directement dans votre boîte mail avec de vrais bons plans. Pour finir, si vous avez besoin d'un soutien opérationnel approfondi dans le financement, l'administration ou le management de votre structure afin de prendre le leadership sur votre marché, toute la team d'Investir à plusieurs va vous chouchouter comme il se doit. Il suffit pour cela de nous écrire à l'adresse suivante débrouillard@investiraplusieurs.com. Je suis Guy Berthold et à bientôt pour un prochain épisode.
Investir à plusieurs.